VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Ouagadougou, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. On commence par la présidentielle américaine 2016. La première dame des États-Unis, Michelle Obama, a effectué une première apparition conjointe hier avec la candidate démocrate Hillary Clinton. Côté républicain, le milliardaire Donald Trump était dans l'Ohio, Jacques Aristide.
Plus populaire que son mari Barack Obama, la première dame a surpris plus d'un observateur. En s'impliquant de façon volontaire pour soutenir l'ex-secrétaire d'État, Michelle Obama est donc montée sur scène avec Hillary Clinton en Caroline du Nord, qui fait partie des États susceptibles de tomber dans l'escarcelle démocrate ou républicaine. Barack Obama avait emporté la Caroline du Nord en 2008, mais y avait essuyé une défaite en 2012. Donald Trump, de son côté, a sillonné l'Ohio, un autre État décisif où il a tenu trois rassemblements. Auparavant, dans une série de tweets, il avait dénoncé les liaisons dangereuses et malsaines entre le travail passé de Mme Clinton à la tête de la diplomatie américaine et le financement des missions caritatives de la fondation portant le nom de son mari, Bill Clinton. Le milliardaire républicain s'est dit prêt à sortir de sa poche des millions de dollars pour freiner sa rivale dans la dernière ligne droite avant le 8 novembre.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Côte d'Ivoire, la population est appelée aux urnes dimanche dans le cadre d'un référendum pour dire oui ou non à une nouvelle constitution. L'opposition préconise le boycott du scrutin. Le docteur Kwame Christophe, président de l'Association pour l'éducation à la citoyenneté, la promotion et la défense des droits humains, nous situe sur les enjeux du référendum.
Aujourd'hui, les enjeux seront premièrement le taux de participation. C'est vraiment le principal enjeu. Mais au-delà même du taux de participation, si cette constitution passe, qu'elle s'applique, je crois que le problème de 2000 peut se répéter. C'est-à-dire qu'en 2000, une partie de la population ivoirienne a trouvé que la constitution était faite pour ou contre elle. Voilà. Cette fois-ci, une grande partie dit « nous n'avons même pas été consultés, nous n'avons pas vu, donc nous n'avons pas voté ». Et la majorité de l'opposition dit « nous faisons un boycott et nous n'irons pas ».
Le docteur Kwame Christophe, président de l'Association pour l'éducation à la citoyenneté, la promotion et la défense des droits humains en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, dialogue de sourds entre les autorités et les agents du secteur de l'information en grève. Au piquet de grève, les forces de l'ordre ont répondu par la répression devant les locaux de la télévision nationale burkinabé. Une action qui alourdit encore plus le climat des négociations. Les grévistes comptent durcir le ton si des mesures ne sont pas prises. On écoute Bassolma Bazier, président de l'unité d'action syndicale.
Nous avons échangé avec le ministre de la fonction publique qui est rentré en contact avec son collègue de la communication parce que nous lui avons dit que nous sommes passés au piquet de grève et qui se déroulait conformément au respect des normes et même les conventions internationales ratifiées. Mais ce qui était en train d'être servi aux travailleurs, c'est inacceptable. De ce point de vue, nous allons rencontrer monsieur le ministre parce que nous lui avons dit au téléphone en attendant que ce qui se passe est la façon dont gère le piquet de grève et le déploiement des forces de l'ordre devant une institution qui devait en principe être le premier écran du pays à l'international, ce n'est même pas du tout bien pour l'image du pays. S'il faut qu'on trimballe nos bagarres en dehors de nos frontières, nous allons le faire. Mais s'ils entendent raison garder, on va aussi régler ça comme il se doit dans le cadre du respect des textes.
Bassolma Bazier, président de l'unité d'action syndicale au Burkina Faso. Au Nigeria, le groupe islamiste Boko Haram a fait des dizaines de milliers de victimes depuis le début de son insurrection en 1989. Ceux qui souffrent le plus, ce sont les enfants qui ont perdu leurs parents dans les attaques des djihadistes. Dans l'état de Borno, il y a à peine un an, s'est ouvert un pensionnat pour aider une centaine d'orphelins. Visite guidée avec Michel Joseph.
L'école dispose d'un grand complexe, une cour, un dortoir et une bibliothèque. Déjà, beaucoup d'enfants rêvent d'une autre vie. Pour Hassan Wakil, le rêve est permis.
Je veux devenir docteur, je pourrais aider les moins privilégiés et ceux qui sont dans le besoin.
Parfois, les enseignants doivent surmonter une barrière de langue. Madame Ousmane raconte.
Au tout début, j'avais un étudiant qui comprenait un peu le Haoussa. Alors, je lui disais d'expliquer aux autres enfants. Et progressivement, nous avons commencé à communiquer. Ce n'était pas facile, mais avec la détermination, je suis maintenant capable de leur parler et leur apprendre quelque chose.
Généralement, après la sieste, les enfants font la queue pour le déjeuner. Certains préfèrent manger seuls et d'autres en groupe. Mais la cuisinière Hajia Fati est ravie puisqu'elle se régale de la nourriture qu'elle prépare.
Nous sommes quatre à nous occuper de leurs trois repas quotidiens. Depuis la création de l'école, ils ne se sont jamais plaints de manque de nourriture ou de saveur et ils se comportent très bien.
Ils ne se plaignent pas parce que les enfants grandissent et s'adaptent à leur environnement. Les enfants sont éduqués et tout leur est fourni. Ils veulent apprendre tout le temps. C'était notre mission.
Il reste cependant quelques défis à relever, dont le manque de personnel de soutien pour surveiller les enfants et beaucoup plus d'employés. Les responsables de l'école espèrent que les autorités vont certainement recruter plus de personnel dans un avenir proche. La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale, RCA, Paris s'est engagé à ne pas laisser tomber Bangui à la fin de l'opération Sangaris dimanche. C'est ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, en marge d'une réunion internationale à Paris consacrée aux missions de maintien de la paix en milieu francophone. Le point avec Eddy Sango.
Selon Jean-Marc Ayrault, il était légitime que Sangaris s'arrête car la MINUSCA, la force de l'ONU en Centrafrique, a pris les relais. L'opération française s'achève mais laisse une situation de fragilité en Centrafrique avec nécessité d'un accompagnement international. Les pays sont toujours sous embargo international sur les armes. L'intervention française puis celle de l'ONU ont réduit les tueries mais n'ont pas réussi à stabiliser la situation sécuritaire. La France a envoyé ses soldats en Centrafrique en décembre 2013 pour mettre fin aux tueries. François Bozizé avait été renversé par une rébellion majoritairement musulmane, la Séléka, ce qui avait entraîné une contre-offensive des milices anti-Balaka majoritairement chrétiennes. Sangaris se termine officiellement dimanche. Les ministres français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, y est annoncé.
Le Burundi a formellement notifié aux Nations Unies sa décision de se retirer de la Cour pénale internationale. Information confirmée hier par le porte-parole de l'ONU, Stéphane Djurjaric. Les détails avec Nani Talani.
La lettre officielle notifiant le retrait du Burundi de la CPI a été remise au service du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, par la ministre burundaise de la Justice, Laurentine Kanyana, lors d'une visite à New York. Le retrait de ce pays prend effet un an après la réception de cette lettre. Le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie ont annoncé leur retrait de la CPI, accusant cette cour de cibler les pays africains. Le Burundi est le deuxième pays à adresser aux Nations Unies une lettre annonçant son retrait de cette institution judiciaire après l'Afrique du Sud. L'ONU n'a pas encore reçu de notification officielle de la Gambie. Elle souhaite que Pretoria et Bujumbura reviennent sur leur décision. La CPI avait lancé en avril une enquête préliminaire sur les accusations de meurtre et autres exactions au Burundi depuis le début de sa crise en avril 2015. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé plus de 270 000 personnes à quitter le pays.
Actualité hors d'Afrique pour terminer. Conflit au Yémen, nouvelle proposition pour une sortie de crise dans le pays. L'émissaire spécial de l'ONU, Ismail Ulchek Ahmed, l'a soumise mardi aux rebelles chiites Houthis qui occupent la capitale Sanaa, mais elle n'a été rendue publique qu'hier. Plus de détails avec Gabi Dorsil.
Des sources ont confié à l'AFP que ce plan prévoit le retrait des rebelles des régions occupées, le transfert du pouvoir du président Abd Rabo Mansour Hadi à un vice-président, la nomination d'un premier ministre et la formation d'un gouvernement de consensus entre le nord et le sud. Les chiites Houthis avaient chassé le gouvernement de Mansour Hadi, le contraignant à l'exil. Mais il est revenu sous les ailes de l'armée saoudienne et d'autres alliés arabes du Golfe qui mènent une guerre féroce depuis mars 2015 contre les Houthis, partisans de l'ex-président Ali Abdallah Saleh et accusés de bénéficier du soutien de l'Iran. Si les principaux protagonistes ne se sont pas encore prononcés, les Émirats arabes unis ont réagi positivement à la feuille de route annoncée hier et qui offrirait une issue politique acceptable à ce conflit qui a fait près de 7 000 morts, plus de 35 000 blessés et 3 millions de déplacés. D'autres initiatives de paix, il faut le rappeler, ont échoué à plusieurs reprises au Yémen.
Conflit en Irak, le groupe État islamique a massacré 232 personnes mercredi près de la ville irakienne de Mossoul et a enlevé des dizaines de milliers de civils pour s'en servir comme bouclier humain. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi la porte-parole du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Ravina Shamdasani. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.